Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un sujet qui est presque passé inaperçu dans l'actualité cette année et pourtant le gouvernement entend dans les mois qui viennent faire en sorte que la France puisse demain modifier génétiquement des embryons ou généraliser la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Un sujet grave s'il en est, posé à l'occasion des révisions de la loi de bioéthique qui, quoi que l'on pense du statut de l'embryon, entend décider des limites de la manipulation de la vie humaine. Quelles sont les recherches aujourd'hui autorisées en France? À quel changement faut-il s'attendre? Que pensent les chrétiens de ce sujet? Peut-on encore trouver avec ceux qui ne pensent pas comme nous des points d'accord, autant de questions que je vous propose de voir ensemble ce matin. Recherche sur l'embryon, quelles promesses et quelles limites? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Dernière d'une série, on va dire, au long cours en fonction des reports du gouvernement français quant à ces révisions des lois de bioéthique, puisqu'elles ont été annoncées, il fut un temps, à l'automne dernier, puis dans le courant de l'année, et maintenant elles seront présentées au Conseil des ministres le 26 ou 27 juillet, si ma mémoire ne me trompe pas, et débattues donc à l'Assemblée nationale en septembre prochain. Alors pour cette émission, dernière du genre, sur donc les six thèmes qui étaient ceux des états généraux de la bioéthique. Angelo Parini, vous êtes directeur de l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires de l'INSERM à Rangueil, et donc professeur d'embryologie à la faculté de pharmacie Paul Sabatier, Toulouse 3. Bonjour.
Bonjour.
Tanguy-Marie Pouliquen, vous êtes prêtre, religieux de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Grégoire Jahan, délégué d'Alliance Vitain pour la Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer, donc, si vous le voulez bien, en essayant de faire un peu de pédagogie et en profitant de votre présence, Angelo Parini, pour, après avoir rappelé, on va dire, les grandes réalités de la recherche sur ce sujet en France, ce que prévoient ces révisions des lois de bioéthique, essayer d'un peu aller sur la paillasse pour voir comment ça se vit précisément. Aujourd'hui, vous me corrigerez, ce que la loi française dit, c'est que depuis 2013, il y a une autorisation encadrée de recherche sur les cellules souches embryonnaires en France et que les scientifiques doivent en fait faire leur demande auprès de l'agence
de bioéthique.
Oui. Voilà, l'agence de bioéthique, et qu'il y a deux conditions à cela, justifier de la pertinence des travaux scientifiques et qu'il n'y ait pas de solution alternative. Est-ce que c'est aujourd'hui la situation, Angelo Parini?
Oui, tout à fait. Donc je dirais qu'en France, on a un cadre juridique qui est très bien déterminé, bien défini, qui à mon avis est raisonnable et qui permet, je dirais, d'aborder l'étude sur les cellules embryonnaires, que on y reviendra peut-être tout à l'heure, a une importance, je dirais, médicale à différents niveaux. Bon, je pense qu'il y a, beaucoup de confusion ou de secteurs qui sont considérés par les auditeurs, par le public. Mais l'utilisation de cellules embryonnaires, d'abord les cellules embryonnaires, c'est quelque chose de très spécifique, on en reviendra tout à l'heure, et l'utilisation des cellules embryonnaires est bien plus large de ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de thérapie cellulaire. L'utilisation est extrêmement importante en termes aussi bien diagnostiques que prognostiques pour les maladies chroniques futures.
Alors combien y a-t-il d'équipes de recherche en France? J'ai vu qu'il y en avait une soixantaine aujourd'hui qui avait eu des autorisations, c'est ça, pour faire des recherches?
Exactement, il y a une soixantaine d'équipes. Je dirais que c'est quand même un domaine qui est extrêmement spécialisé. Ce sont des équipes qui abordent le fonctionnement fondamental des cellules embryonnaires.
Donc c'est d'abord la recherche fondamentale?
Recherche fondamentale et, je dirais, un niveau moindre, la recherche avec un but... Recherche fondamentale, attention, avec comme but la compréhension des mécanismes du développement embryonnaire, avec des impacts qui sont aussi, après, au niveau de pathologies chroniques chez l'adulte, et quelques équipes qui s'occupent maintenant des cellules embryonnaires en tant que cellules utilisables dans la thérapie cellulaire. Mais je dirais que la grande majorité est focalisée sur les études du développement.
Alors, il faut le préciser aussi, on l'a fait lors des précédentes émissions, où est-ce qu'on trouve ces cellules souches embryonnaires? Il y a plusieurs, entre guillemets, sources d'approvisionnement, si je peux me permettre cette expression qui pourra choquer certains auditeurs. Expliquez-nous, c'est donc les embryons surnuméraires, ceux qui ne font pas l'objet de projets parentaux, et ceux, entre guillemets, qui, lors de FIV, étaient un petit peu cabossés, pour dire les choses très... très...
Alors, tout d'abord, il faut préciser qu'est-ce que c'est une cellule embryonnaire et de quoi on parle. Hein, parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion. En embryologie, la période embryonnaire elle commence à la deuxième semaine du développement et les cellules embryonnaires qui sont utilisées en recherche sont obtenues autour du cinquième, sixième jour après la fécondation.
C'est-à-dire qu'il y a une limite en France de 7 jours, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ça, exactement, parce que les cellules embryonnaires dont on parle, c'est des cellules, c'est pas un très grand nombre de cellules, c'est une centaine de cellules qui se retrouvent à l'intérieur d'une structure qui s'appelle blastocyste, et ces cellules, les cellules souches embryonnaires, sont des cellules qui n'ont pas encore les caractères des tissus et des organes de l'embryon, sont des cellules, ce qu'on appelle des cellules totalement indifférenciées, et sont les cellules qui vont après donner l'origine aux différents tissus. Au moment du prélèvement de ces cellules, les cellules embryonnaires, ces cellules sont vraiment n'ont aucune caractéristique de un tissu ou d'un organe humain. Donc, c'est un concept qui est très important.
Ça, c'est d'un point de vue biologique.
Bien sûr, je suis biologiste, donc je vous parle de la biologie. En termes de biologie, il n'y a aucune caractéristique de ces cellules qui puisse les rapprocher d'une façon ou d'une autre à un des tissus ou des organes qu'on trouve chez un individu adulte.
Alors ça, c'est précision faite, mais où est-ce qu'on les trouve, juste pour, puisqu'on est en train de poser un peu les termes, tout le monde ne le sait pas, on a parlé des sécos, et puis enfin, j'avais appris lors d'une émission qu'en fait, tous ces embryons surnuméraires étaient en fait dans les centres de procréation médicalement assistés. Voilà. Expliquez-nous où est-ce qu'ils sont et sur quelle matière vivante vous travaillez en fait.
La matière vivante, c'est exactement ces centaines de cellules qui ont extrait d'une structure qui est un blastocyste, excusez-moi du terme très, très spécifique, mais qui est la partie, je dirais, juste avant la nidation de ce blastocyste. J'aime pas l'appeler embryo parce que c'est pas correct, mais c'est ce blastocyste avant qu'il puisse démarrer la nidation au niveau de la paroi de l'utérus, eh bien contient ces centaines de cellules qui sont dans le bouton embryonnaire et qu'on peut utiliser. Donc pour ce qui concerne les embryons, pas les embryons, mais les blastocystes qu'on peut utiliser, eh bien ces blastocystes sont issus de la fécondation in vitro et sont des embryons surnuméraires.
Qui ne font plus l'objet de projet parental. Exactement. C'est-à-dire que tous les ans, on pose la question aux parents.
Exactement.
Et ils peuvent, entre autres, faire le choix de le donner à la recherche. Je crois que c'est 20 000 parents à peu près qui sont donnés à la recherche,
c'est
ça ?
Tout à fait. Et ce qui est important, ils peuvent même retracter leur autorisation à l'utilisation de l'embryon. Donc, ils peuvent changer d'avis. Et donc, il est empêché d'utiliser l'embryon au but de recherche.
Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des embryons porteurs de maladies congénitales qui avaient été identifiés lors des diagnostics préimplantatoires et aussi des embryons écartés donc, de l'assistance médicale à procréation parce qu'on redoute un mauvais développement. Bon, bref, en tout cas, c'est sur cette, entre guillemets, matière, pardon d'utiliser ce terme. On y reviendra, que vous travaillez. J'aimerais, avant qu'on plonge peut-être dans le cœur du débat, que l'on fasse état de ce que prévoit, et là je vous pose la question à tous, les prochaines révisions des lois de bioéthique. Dans un article du journal La Croix, signé, si je ne me trompe pas, d'il y a quelques semaines, il est dit la chose suivante, en fait, c'est que donc on irait vers une généralisation de la recherche sur l'embryon, c'est-à-dire un allègement des autorisations, que la finalité médicale ne serait pas forcément encore approuvée et que l'absence d'alternatives pour conduire ces recherches aussi serait peut-être suspendue. Il y aurait une autre modification qui pourrait être apportée, c'est donc la possibilité de modifier génétiquement des embryons dans un cadre expérimental. Grégoire Jean, vous qui suivez ça un peu pied à pied, est-ce que j'ai été complet ? Qu'est-ce que vous apporteriez comme correction ?
Oui, alors c'est vrai, le contenu actuellement de la loi n'est pas forcément connu et n'est pas forcément totalement défini, mais on peut se baser sur les différents rapports qui ont pu être produits. Alors on se rappelle que la consultation populaire sur les états généraux de la bioéthique a été plutôt mis de côté. Et si on en croit plutôt les derniers rapports, en particulier le rapport Touraine, qui était le nom du rapporteur député.
La mission d'information.
La mission d'information, voilà, auprès des députés. Il y a en effet beaucoup d'évolutions. Donc en effet, on parle justement d'allonger potentiellement la durée de recherche sur l'embryon. Donc on passerait du coup au stade complètement embryonnaire.
Donc de 7 à 14 jours.
On parlerait potentiellement pour la recherche de création d'embryons chimères, animal-homme si besoin. Peut-être utilisation de certaines techniques justement sur l'embryon, avec en particulier, on pense, la technique de la FIV 3 par an, qui permettrait, alors c'est pas directement sur l'embryon, mais qui permettrait de créer de modifications au niveau de l'ovule, et aussi...
Juste, vous pouvez préciser ça, parce que j'ai pas tout à fait compris, FIV 3 par an.
La FIV 3 par an, c'est une technique qui a été mise au point par des scientifiques, alors au Mexique, où en fait on utilise le noyau d'un ovule d'une personne qui voudrait avoir un enfant, qu'on met au sein de l'enveloppe d'un autre ovule. C'est-à-dire qu'en fait, on crée finalement un embryon quelque part génétiquement modifié, puisque non créé à partir d'un spermatozoïde et d'un ovule. On aurait d'abord deux ovules et un spermatozoïde. Donc il y aurait on n'est pas sur de la recherche sur l'embryon à proprement parler, mais en revanche, on serait sur des créations d'embryons. Et donc, peut-être d'enfants ensuite génétiquement modifiés.
D'accord. Et les derniers points, donc généralisation de la recherche sur l'embryon et levée des deux critères, ça aussi, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, non?
Oui, c'est ça. On voit qu'il y a eu un vrai basculement au fur et à mesure des révisions de loi de bioéthique. En 1994, on a été avec une interdiction, avec dérogation exceptionnelle. Et au fur et à mesure des révisions de loi de bioéthique et dernièrement en 2013, en dehors du cadre des révisions de loi de bioéthique, on est passé sur un statut d'autorisation sous condition. Donc on voit un basculement sémantique et peut-être aussi dans les pratiques.
Alors, Tanguy-Marie Pouliquen, juste pour rappel, hein, c'est toujours pour essayer de poser un petit peu les termes du débat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que dit l'Église sur le sujet? Moi, dans un article du journal La Croix, ils ont fait une grande série cette année. Il y avait ce que dit la loi, entre autres ce que dit l'Église en pied de chacun de leurs dossiers sur chacun des thèmes. Ils rappelaient que l'Académie pontificale pour la vie s'oppose clairement à ces recherches, affirmant que l'embryon vivant est, à partir de la fusion des gamètes, un sujet humain avec une identité bien définie. Et bref, que l'Église mettait grandement en garde sur ce type de recherche.
Oui, tout à fait. Position de l'Église, c'est de considérer que la présence personnelle d'un sujet humain s'opère non pas au stade dit embryonnaire, si on le calque au 6e, 7e jour dans la dilatation de l'utérus, mais dès l'instant de la fusion des gamètes. À partir de cette fusion-là, il y a un potentiel, en tout cas cellulaire, biologique, mais beaucoup plus large, qui indique une présence personnelle, non pas une personne potentielle, comme l'indiquait en son temps le Comité national consultatif d'éthique, mais une personne qui a tout son potentiel. Donc il y a une potentialité qui est active, et à aucun moment il y aura une potentialité complémentaire qui va rajouter à cette potentialité. Alors c'est pas un programme fixé à l'avance, etc. Il y a un aspect épigénétique qui va aussi se manifester, mais il y a toute une présence personnelle, une potentialité, une vie qui est déjà là. On pourrait dire un principe spirituel qui traverse cette biologie magnifique, un potentiel, et qui va l'orienter vers un développement complet en sautant par des stades biologiques successifs. Mais l'identité même de la personne est présente dès le premier instant.
Angelo Parini, avant qu'on en vienne, on va dire, au cœur de l'émission, parce que évidemment, ça sera probablement sujet de discussion entre vous sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque une des conditions aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y ait pas de possibilité de recherche alternative pour autorisation de ces recherches sur ces cellules souches embryonnaires, j'ai lu en fait des choses assez contradictoires, que l'on lise le journal La Croix ou autre magazine chrétien, ou que l'on lise des interviews données par des directeurs de recherche ou de comité éthique de l'INSERM, on voit, on va dire, des choses contradictoires. Certains disent que cette recherche donne des résultats et d'autres disent qu'elles n'ont jamais donné de résultats. Alors j'ai vu que s'il y avait un point sur lequel les uns les autres tombaient d'accord, c'était quant aux maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ces recherches apportent on va dire, au final, comme soin possible ou comme guérison possible?
Alors, je pense que le problème dérive très probablement du fait qu'on a considéré très longtemps la recherche sur les cellules embryonnaires comme une recherche qui vise à produire des cellules à utiliser dans la thérapie cellulaire pour remplacer des cellules qui sont mortes chez l'adulte ou qui sont endommagées. Et c'est pour ça que on parle du domaine cardiovasculaire, parce que c'est un des domaines dans lesquels cette approche de thérapie cellulaire avec les cellules embryonnaires ou des cardiomyocytes dérivés des cellules embryonnaires a été proposée.
Je dois faire une pause sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que grâce à la recherche sur les cellules embryonnaires, on arrive à produire en fait des cellules adultes et à les implanter dans un corps malade pour avoir des cellules, on va dire... non malade. Alors, pardon de poser les questions très simplement.
C'est une très bonne question, mais vous utilisez le temps présent à la place d'utiliser le conditionnel, qui je pense être une grande différence. En effet, on pensait que on pourrait soigner des pathologies cardiaques avec les cellules embryonnaires, les cardiomyocytes dérivés des cellules embryonnaires. Or, je dirais que cette application, c'est sûrement, à mon avis, la moins importante. Et surtout celle qui pourrait, donner des résultats, mais dans des délais de temps extrêmement longs. En revanche, tout ce qui est extrêmement important avec les cellules embryonnaires, c'est la connaissance de mécanismes fondamentaux de développement, même développement cardiaque, qui peuvent être appelés, après, utilisés pour comprendre le développement de pathologies cardiaques ou autres. Je vous parle par exemple du phénomène de dédifférenciation et différenciation des cellules. On sait aujourd'hui, en étudiant tous les mécanismes de développement embryonnaire, on a quand même des données extrêmement solides pour savoir pourquoi les cellules adultes, à un certain moment, vont vers un fonctionnement et une biologie qui est très proche de celle des cellules embryonnaires, mais qui empêche la fonction normale de l'organe. Donc je pense qu'il faut passer...
Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous venez de dire? J'avoue pas tout avoir saisi.
Très simplement. On sait par exemple dans l'insuffisance cardiaque qu'à un certain moment, un cardiomyocyte qui ne fonctionne plus correctement va exprimer des gènes et des protéines qui sont des gènes et des protéines typiques de la période embryonnaire. Et que cette expression, cette dédifférenciation des cellules, cette perte de fonction et cette expression de gènes embryonnaires est impliquée dans dans une dérive de ces cellules vers un type cellulaire qui est immature et qui n'est pas suffisamment différencié pour pouvoir garantir une fonction. Tout ça, on l'a maintenant...
Donc vous l'avez compris, grâce à la recherche sur les cellules embryonnaires, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Exactement.
Mais donc je repose ma question, puisque la condition sine qua non normalement de l'autorisation de ces recherches, c'est qu'elles aient une finalité et qu'il n'y ait pas de recherche alternative, on peut imaginer, alors pardon c'est moi peut-être qui lis entre les lignes, que c'est qu'aussi elles aient un jour une finalité thérapeutique.
Évidemment.
Aujourd'hui, vous nous dites que la recherche sur l'embryon ne donne pas en fait de résultats et ne guérit pas. Ça sert d'abord à la recherche fondamentale.
Absolument, ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit seulement que la recherche sur l'embryon, en termes de production de cellules qu'on peut utiliser pour les administrer à des patients, je dirais que c'est, pour le moment, c'est quelque chose qu'il faut, je dirais, oublier, mais de mettre de côté.
Donc ça nous aide à mieux comprendre, entre guillemets, la vie de notre corps humain, pour faire très général, et pourquoi pas, du coup, de mieux soigner, c'est ça?
Exactement. Un autre petit exemple, on sait très bien maintenant, par exemple, les facteurs nutritionnels sont extrêmement importants au cours du développement embryonnaire pour déterminer des modifications épigénétiques qui vont déterminer la prédisposition d'un enfant, d'un adulte, ensuite à des maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité ou la maladie d'Alzheimer. Donc on sait que la connaissance des mécanismes qui régulent le développement des cellules embryonnaires est quelque chose qui peut avoir un impact médical bien au-delà de la thérapie cellulaire, qui à mon avis c'est un épiphénomène aujourd'hui de la recherche sur l'embryon.
Alors vous, par exemple, qui êtes donc directeur de l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires, vous avez donc une autorisation de recherche, c'est ça ?
Dans notre institut, il n'y a personne qui travaille sur les cellules embryonnaires.
D'accord.
Donc, on travaille sur des cellules souches, mais adultes, mais on ne travaille pas sur les cellules embryonnaires. Donc, on peut aussi parler des IPS, hein, de ce qu'on appelle des cardiomyocytes dérivés des IPS, et des limites des IPS, mais nous, on ne travaille pas sur les cellules embryonnaires.
Alors, les IPS, elles ne pourraient pas être le matériel de base qui contournerait l'utilisation de ces souches embryonnaires.
Je pense ce que sont les cellules IPS.
Alors justement,
ces cellules reprogrammées. Alors
la reprogrammation. Comment arriver aux cellules reprogrammées?
Alors juste, il faut repréciser. Donc du coup, la question que pose un certain nombre de personnes, que vous ont posé donc les deux autres invités, Tanguy Marie Poulquin et Grégoire Jahan, c'est donc la potentialité de recherche alternative.
Exact.
Voilà. Et on parle là-dessus des cellules IPS, des cellules du cordon ombilical. Et il me semble qu'il y en a aussi
de la moelle osseuse.
De la moelle osseuse, voilà. Oui. Donc il y aurait des alternatives. Alors qu'est-ce que vous dites sur ce sujet?
Alors, il faut, pour ce qui concerne, on va éliminer tout de suite les cellules du cordon ombilical et les cellules de la moelle osseuse, parce qu'ils ne sont pas des cellules souches qui peuvent être équivalents aux cellules pluripotentes, aux cellules de l'embryon.
Pluripotentes, ça veut dire repréciser?
Alors, pluripotentes, ça veut dire que
potentialité de se diviser dans n'importe quel type de cellule.
Exact. Tandis que les cellules de la moelle et les cellules du cordon ombilical sont des cellules multipotentes qui vont se différencier seulement dans un certain type de cellules. Donc, on ne peut absolument pas les comparer. Donc, d'ailleurs, maintenant, on les appelle plus souches, mais on les appelle progéniteurs, parce que ils sont en aval des cellules souches.
D'accord. Alors, restons donc sur les fameuses cellules IPS.
Alors, sur les IPS, d'abord, comment on est arrivé à les IPS? On est arrivé aux IPS grâce à ce qu'on a connu sur le développement embryonnaire. Le concept, c'est qu'on introduit dans les cellules adultes des facteurs de transcription, des protéines, qui sont typiques de la programmation des cellules en souche, donc en cellules pluripotentes. Donc, on prend les cellules adultes et on leur fait faire marche arrière en introduisant des facteurs qui sont des facteurs typiques de la période pluripotente. Donc ça permet d'avoir des cellules...
Et ça marche?
Ça marche, ça, il n'y a aucun problème, ça marche. Maintenant, après, à partir de ces cellules pluripotentes, on peut revenir vers la différenciation en cellules dont on veut étudier la fonction, par exemple les cardiomyocytes, les cellules neuronales. Quels sont les problèmes des IPS? Sont un bon outil, mais c'est complémentaire. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on introduit des facteurs exogènes dans les cellules pour les reprogrammer. Ces facteurs exogènes peuvent, soit sont des protéines, soit des gènes, peuvent s'insérer ou ne pas s'insérer dans le génome si on parle de gènes, ou peuvent modifier de toute façon la fonction cellulaire pendant très longtemps. Ces facteurs ne sont pas présents pendant toute la période du développement embryonnaire. Donc l'impact de ces facteurs sur la différenciation des cellules, on ne le connaît pas. Premier problème. Deuxième problème, quand on reprogramme une cellule adulte, ces cellules adultes, au niveau du génome et dans d'autres structures, ont des modifications épigénétiques qui ont été introduites au cours de la...
Épigénétique, ça veut dire juste?
Épigénétique, ce sont des modifications de l'expression du génome sans modification de la séquence en ADN du génome. Donc c'est quelque chose qui est évolutif. L'épigénétique, c'est évolutif et est extrêmement lié aux facteurs environnementaux. Donc les cellules qu'on va reprogrammer ont une mémoire épigénétique qui est absente dans les cellules pluripotentes, embryonnaires classiques, et qui pourrait impacter beaucoup, de façon très significative, la différenciation des cellules.
Alors ce que j'ai entendu aussi, c'est que ça coûtait très cher. Non,
c'est pas un problème de coût, c'est un problème scientifique. Le coût, c'est autre chose.
C'est secondaire.
C'est secondaire.
Bon, enfin, vous réfléchissez comme ça, mais d'autres peut-être réfléchissent autrement. Pour finir, là, on va vraiment faire une pause pour essayer de digérer ce que vous nous avez dit. Ces recherches sur les cellules IPS, qu'est-ce qu'elles donnent comme résultat? Est-ce que, avec les recherches sur les cellules IPS, même si on a bien compris vos mises en garde, est-ce qu'il y a des résultats, on va dire, thérapeutiques pour le coup? Est-ce qu'on peut soigner à partir de cette recherche sur les cellules IPS?
Alors, encore une fois, je vois que parmi les auditeurs ou parmi le public, on pense toujours à ces cellules pour les administrer après, pour soigner. C'est pas du tout l'application la plus importante. Sinon, on regarde l'application aujourd'hui la plus importante des IPS, c'est la possibilité de générer à partir de malades. On reprogramme les cellules à partir de patients qui ont des pathologies certaines fois rares, et on peut générer des cellules pluripotentes et les différencier dans des cellules adultes pour pouvoir étudier les mécanismes de développement des maladies. dont on ne connaît pas bien l'origine. Donc c'est un outil extraordinaire pour la connaissance physiopathologique.
Voilà, alors restez avec nous, parce qu'évidemment, ça n'est pas sans poser de questions éthiques profondes. On va faire une pause musicale, et puis on va se retrouver pour rentrer dans le vif du débat, en tout cas, quant aux positions qui sont parfois radicalement opposées à l'occasion de ces révisions des lois de bioéthique. On aborde ça tout à l'heure.
Emmanuel Pella.
Recherche sur l'embryon, c'est donc pour rappel, recherche sur l'embryon, pardon, quelle promesse et quelle limite, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, dernière de notre d'une grande série annuelle en pointillé, donc à l'occasion des prochaines révisions des lois de bioéthique qui, je vous le rappelle, projet de loi qui seront présentés en Conseil des ministres fin juillet et débattus au Parlement à l'automne prochain. Pour nous parler de ce sujet aujourd'hui, Angelo Parini, qui est donc directeur de l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaire de l'INSERM à Rangueil et professeur d'embryologie à la faculté de pharmacie Paul Sabatier Toulouse 3, Tanguy Marie Pouliquen, prêtre et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, et Grégoire Jean, délégué d'Alliance Vita pour la Haute-Garonne. Pour relancer le débat, une autre actualité, c'était en mars dernier. Il y a une association qui est en France, une fondation pardon, qui s'est fait une spécialité d'essayer de faire annuler les autorisations de recherche sur l'embryon, qui devient un des ennemis jurés de l'Agence de biomédecine française qui donne ces autorisations. C'est la fondation Jérôme Lejeune. La fondation Jérôme Lejeune, fait rarissime semble-t-il, a obtenu de la cour administrative d'appel de Versailles, c'était le 12 mars dernier, que deux autorisations de recherche ont été retoquées, les pouvoirs publics et la justice considérant qu'en effet ces autorisations n'étaient pas justifiées. Donc, et ça sera une manière de se lancer dans le vif du sujet, quand pour vous, Angelo Parini, pour, semble-t-il, une grande partie du corps médical, ces recherches sont nécessaires, pour certains, elles sont inadmissibles. Qu'est-ce que vous entendez des réserves qu'expriment nombre de chrétiens ?
Je dirais que je peux les comprendre. Je peux comprendre les réserves des uns et des autres sur l'utilisation de l'embryon. Maintenant, il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est que le cadre juridique français, c'est quand même un cadre qui est extrêmement, bien structuré et qui limite ce qui sont les dérives possibles, en sachant que les dérives possibles dans d'autres pays sont présentes. Donc, je pense que en France, on est dans un contexte qui évite ce type de dérive.
Alors là, vous parlez au présent, mais imaginons qu'on se projette à horizon septembre 2021 et que les révisions des lois de bioéthique et tout ce qu'on a dit au début de l'émission soient votées. Dans ce qui est dans les tuyaux de ces révisions de lois de bioéthique, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous émettez des réserves quand on parle des embryons chimères, de recherche sur, enfin en tout cas de possibles autorisations?
Alors, les embryons, il faut pas penser à la création d'embryons chimères ou de la manipulation génétique de ces embryons comme quelque chose qui vise à la génération d'individus, à part entière. Ces manipulations génétiques sont là pour la plupart des cas pour comprendre des mécanismes de développement des maladies, encore une fois, et deux, la possibilité d'intervention thérapeutique chez l'adulte ou de prévention du développement de la maladie. Donc le but médical est là, mais c'est hors de question que ces manipulations puissent viser la génération d'un individu génétiquement modifié. C'est absolument pas d'actualité en France. Et même avec l'évolution de la loi de bioéthique...
Ça n'est pas la visée, mais à un instant T, il y a quand même une modification génétique. Enfin, demain, on validerait la possibilité de modifier génétiquement un embryon. À un instant T, même si le projet n'est pas d'en faire un mutant, comme dans certains films de science-fiction.
Je crois que pour le moment, on reste sur des preuves de concept de l'implication d'un mécanisme particulier dans le développement d'une maladie et dans la prévention du développement de la maladie. Il ne faut pas chercher plus loin. La manipulation génétique restera seulement dans ce contexte.
Alors, quid de la suppression, après, des deux finalités que sont une finalité médicale et l'absence d'alternative pour conduire ces recherches? Ça aussi, ça serait dans les tuyaux. Quel est l'intérêt? Et puis quand vous dites qu'aujourd'hui, c'est assez encadré en France, de fait, ça serait, on a l'impression, de prime abord, que c'est deux grands garde-fous qui sont supprimés.
Alors après, il faut dire qu'est-ce qu'on entend pour application médicale. Si c'est pour soigner dans un délai de temps extrêmement court une maladie, dans ce cas, je pense que c'est trop restrictif. Si on pense qu'une application médicale, c'est la connaissance d'un mécanisme fondamental pour la prévention d'une maladie ou le traitement d'une maladie, je pense que dans ce cas, elle peut être acceptée. Donc peut-être que le conseil... Je n'ai pas peur de ce type de modification, au moins en France.
Grégoire Jaron.
Ouais, enfin, je pense que de toute manière, la vraie question qui y a derrière, c'est le statut qu'il y a derrière de l'embryon. Enfin, donc, du coup, de l'embryon, même si biologiquement, il n'est pas encore un embryon. C'est-à-dire qu'il est important de rappeler que nous avons tous été une cellule. À la base, on n'a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture qui est réellement vue dans le développement de la cellule, des embryons, qui permettrait de caractériser à un moment ce qu'est un être humain. Donc il y a quand même un principe de précaution qui serait normalement à respecter. Et y a un deuxième point qui est important, c'est qu'en fait, le statut de l'embryon change suivant le projet qui y est associé. On a parlé tout à l'heure que les embryons qui sont utilisés dans le cadre de la recherche sont les embryons qui ont été créés lors des fécondations in vitro, qui sont sans projet parental. Donc sans projet parental, on le conserve. Donc déjà, il y a peut-être une maltraitance originelle qui est à se poser, enfin, qu'il faudrait se poser comme question sur l'embryon en lui-même. Et ensuite, derrière, s'il naît sans projet parental, son statut change, alors que l'embryon tel qu'il est n'a pas changé. Et on se rend compte qu'en plus, cette évolution des lois de bioéthique...
Donc c'est fonction du regard qu'on porte sur lui, presque, c'est ça
c'est exactement ça. C'est le regard qu'on porte sur lui fait changer dans la loi la manière de le traiter. Or, l'embryon n'a pas à être un matériau. Je pense que c'est ça qui est important, et là je pense que c'est mon désaccord avec Angelo Parini, du fait de se dire que l'embryon, après, il va être détruit. Et donc du coup, l'embryon qui est pour la recherche est détruit. La question du coup que ça pose est quand même assez forte.
Tanguy-Marie Pouliquen, dans une interview que j'avais trouvée d'un directeur de recherche de l'INSERM, c'est de fait ce qui était dit, hein, c'est que le statut en fait de cette cellule, de cet embryon. Quel est le terme scientifique que vous utilisez tout à l'heure?
Blastocyte.
Blastocyte. Parlez bien près du micro, sinon on ne vous entend pas.
Ouais.
Blastocyte. Et fonction donc du projet parental. Voilà, en tout cas, c'est l'argument qui est porté. Comment répondre à cette...
Derrière ces questions d'actualité scientifique, mais aussi politique, ce cadre, finalement, une réflexion éthique fondamentale qui renvoie de quelle vision de l'homme parle-t-on? Voilà. Quelle est notre vision commune de l'humain? Est-ce que le rapport à la vie est porté par une raison instrumentale, c'est-à-dire une raison qui est capable de maîtriser le réel comme un matériel qu'on peut changer à souhait, qu'on peut manipuler, ou, comme l'indique l'Église, c'est une raison transcendantale, c'est d'abord une raison qui s'incline vers le donné de la vie. Et comment un être humain ne serait-il pas déjà une personne? C'est l'axe fondamental de la première instruction de bioéthique de Novitae de 1987. On s'incline, vous voyez, on s'incline devant une vie donnée dès le départ, avec une présence personnelle, en tout cas avec un dynamisme qui a une puissance incroyable et dont on sait qu'il porte en puissance, mais déjà en actualité progressive, une personnification de l'existence. Donc derrière toutes ces questions d'actualité, c'est des questions qui renvoient finalement à des débats de société fondamentaux. Quelle est notre culture commune? Est-ce que c'est une culture qui va renvoyer à une conception autoréférée de la liberté dont le lieu paradigmatique d'excellence serait l'exercice de la science fondamentale qui instrumentaliserait à souhait de manière possible une vie naissante? Ou est-ce que d'abord on se dit, attends, là il y a quelque chose qui est donné, et on peut se poser la question, mais comment aujourd'hui une société aussi respectueuse des droits de l'homme que voudrait être la France pourrait permettre 200 000 embryons surnuméraires qui soient congelés? Est-ce qu'il y a des catégories de surhommes, de sous-hommes? Est-ce qu'on est à...
200 000 embryons surnuméraires, c'est donc le nombre d'embryons qui sont congelés en France.
Actuellement, et donc est-ce que ça veut dire qu'à un moment de la vie, on est un sous-homme ou est-ce qu'on est un surhomme? Est-ce que je suis un surhomme par rapport à un sous-homme? Est-ce que je suis plus homme ou je suis moins homme? Est-ce qu'il y a plus un moment de respect de personne, de la personne qui doit être due? Attends, à un moment, la vie est donnée et accueillons la vie. Voilà. Et un autre élément, c'est, on parle de... Il y a un zygote, bon, après il y a un embryon, il y a du corps. Mais est-ce qu'on a déjà vu un corps sans une personne? Est-ce qu'on a déjà vu un corps sans une personne? Toute notion de corps porte en elle-même, de manière intrinsèquement liée, la notion de personne. On n'a jamais vu de corps sans qu'il provienne d'une personne. Donc si on reconnaît que dans cette vie naissante, il y a du corps sur lequel on travaille, peut-être interrogeons-nous sur la présence personnelle d'une réalité personnifiée.
Angelo Parini, on n'est pas là pour du tout pour faire votre procès, hein, puisque vous êtes, vous avez eu le courage de venir, et je vais vous donner l'occasion de répondre. Mais c'est vrai que voilà, si on essaie d'avancer dans ce débat de manière vraiment courtoise et constructive, on se dit, on imagine que vous, par moment, ça vous pose quand même des questions en conscience. Vous n'êtes pas qu'un scientifique, vous êtes un homme. En plus, vous disiez que vous avez une formation philosophique hors antenne. Quand on entend Tanguy Républicain dire, on n'a jamais vu. Je ne sais pas si c'est l'expression humaine, mais des cellules humaines qui ne sont pas une personne, c'est
ça ? Un corps qui ne soit pas porté par une personne.
Voilà, alors j'ai lu dans une autre interview, on n'a jamais vu un être humain qui ne soit pas une personne. Comment vous vous positionnez ? Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression que, de fait, vous faites des recherches sur des personnes ?
Mais de toute façon, on fait de la recherche sur les personnes, on fait aussi des essais cliniques chez les personnes. Donc on pourrait...
On ne les détruit pas derrière. Il y a une question de vie ou de mort, là.
Mais je vous dis, il y a aussi la question éthique, pourquoi traiter les gens avec un placebo et les autres avec la thérapie sur des pathologies graves. Donc on peut, l'éthique va très loin. Mais
il n'empêche qu'a priori, quand on va faire des essais cliniques, on ne ressort pas les pieds devant quand même, c'est une réalité, c'est...
On pourrait peut-être que dans une autre émission on pourra discuter de ce point parce que je pense que c'est autre chose.
Ça nous fera un scoop, mais
il faut non, c'est pas une question de scoop. Après il faut voir qu'est-ce que ça veut dire les pieds avant. C'est pas immédiatement, mais peut-être après 10 ans, après 20 ans. Il y a des effets secondaires de médicaments qu'on les voit très tardivement. Il y a des exemples très, très parlant en France.
En tout cas, tous ces chercheurs qui font des recherches donc, sur les cellules souches embryonnaires, même si vous n'en faites pas vous directement, est-ce qu'à un moment, la question ne se pose pas de travailler, en fait, vous êtes en train de manipuler une personne, en fait.
Une personne, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit un souci qui est évident immédiatement. Mais
alors, comment
lorsqu'on manipule, mais une arrière-pensée, bien sûr. Je pense que chacun d'entre nous, à partir du moment où on manipule des cellules embryonnaires, je pense qu'il y a une pensée, une réflexion sur cette approche.
Alors comment vous y répondez ? Comment vous faites quelque part pour arriver à vivre avec ?
Mais on y répond parce qu'on pense que c'est une étape nécessaire pour soigner et améliorer, pour ceux qui me concernent, c'est une étape nécessaire pour améliorer la santé de millions de personnes et le futur de millions de personnes.
Donc la fin justifierait les moyens, c'est ça, pour vous ?
Absolument pas. Je dis pas que les fins, c'est un raccourci que j'aime pas. Je dirais pas ça. Je dirais qu'il faut trouver. Quand on parle de l'embryon surnuméraire, moi ce qui me frappe, c'est que ces embryons seraient de toute façon perdus et seraient de toute façon détruits s'il n'y a pas de projet parental derrière. Donc, je me dis plutôt que les perdre. D'une façon inutile, on peut les perdre d'une façon utile. Et je pense que dans ce cas, pour moi, c'est tout à fait justifié.
Mais est-ce que vous comprenez du coup que certains chrétiens, et d'ailleurs, il n'y a pas que des catholiques, il y a aussi des protestants, de manière probablement très raccourcie et très caricaturale pour vous, ils se disent en fait, il y a comme des personnes en fait, qui sont au congélateur, et puis comme il n'y a pas de projet de parental, c'est vrai qu'il vaut mieux faire des expériences sur eux plutôt que de les jeter à la poubelle. Le raccourci vous choque peut-être, mais pour nombre de chrétiens, c'est réfléchir comme ça. Quand une vie, il faut rappeler, quand un embryon est congélé, c'est quoi? C'est moins 196 degrés, c'est ça?
Oui.
À n'importe quel moment, ne serait-ce que 20 ans après, la vie repart, et si on la laisse repartir, eh ben, ça donne un être humain derrière quand même.
Oui, mais pour ce qui me concerne, moi je pense que ces cellules qui n'ont aucune... Après, est-ce qu'il y a une âme ou pas une âme sur 100 cellules qui n'ont aucun caractère de différenciation? Ça c'est... voilà, pour moi c'est un...
Mais on a tous été une cellule.
Non, mais elles ont un caractère de différenciation génétique.
Il y a l'unité.
Là, on rentre dans la croyance et dans une vision philosophique qui est à chacun.
Moi,
je me pose le problème sur l'utilisation des embryons et quel type d'embryon. Moi, je vous dis, aujourd'hui, un embryon qui est surnuméraire, qui ne va pas être utilisé pour un projet parental, et qui peut apporter des réponses en termes biomédical, en termes physiopathologiques, les 100 cellules, pour moi, qu'on va utiliser, sont des cellules qui n'ont pas un caractère, à mon avis, humain.
Du coup, pourquoi les protéger plus que d'autres, alors ? Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a qu'il peut y avoir une certaine incohérence, puisqu'en France, comme on disait, on a une loi qui protège par rapport à d'autres pays. Hein. Il s'agit pas de voilà, on a un certain respect de l'embryon, mais un certain respect. Mais donc, pourquoi ne pas faire un respect ? Et pourquoi finalement faire un respect qui n'est pas cohérent finalement certaines fois,
parce qu'il y a comme une forme de paradoxe, c'est ce que souligne Grégoire Jean.
Parce que je pense qu'on peut avoir cette idée de respect, et en effet on respecte les embryons. Mais il y a aussi la possibilité...
Ça veut dire qu'on respecte les embryons, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas de recherche au-delà de 7 jours, c'est ça que vous...
Ça, c'est une chose.
Quelle est la limite que vous fixez, vous, en fait ? À partir de quand c'est une personne humaine ?
Moi, je n'ai pas... Sincèrement, je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que c'est quelque chose qui prendrait des heures. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les cellules du blastocyste,
oui, mais quand
les,
vous...
100, les 100 cellules du blastocyste, pour moi, ne sont pas une personne humaine. Mais ça, c'est mon point de vue.
Vous aviez l'air de dire qu'au-delà de 14 jours, il y avait une bascule. C'est...
Ça aussi, c'est pas au-delà des 14 jours, c'est à partir du 8e jour.
De l'anidation. Quoi.
Après l'anidation, il y a le début de formation des tissus. Donc on peut déjà dire qu'on est vers la formation d'un cerveau, vers la formation des cellules nerveuses ou des cellules musculaires, etc. Donc je pense qu'à partir de ce moment, il y a déjà une ébauche de formation d'un organisme. Mais avant ce moment, pour moi, ça reste 100 cellules qui n'ont aucune caractéristique d'un tissu ou d'un autre.
Mais un ADN particulier, un ADN unique.
Un ADN unique, oui.
Il y a une pétition comme ça qui a circulé en Europe, qui s'appelle One of Us. Certainement, Grégoire Jean en a entendu parler, puisqu'elle était portée en France par 4 associations, entre autres Alliance Vita. Donc c'est une initiative européenne citoyenne qui a récolté 2 millions de signatures demandant l'interdiction du financement européen des programmes impliquant des destructions d'embryons et de fœtus humains. Normalement, au-delà de, je crois, c'est au-delà d'un million, donc bref, le quorum était largement atteint. La Commission européenne aurait dû, du coup, revoir ses positions là-dessus. Et la Commission européenne a retoqué cette initiative européenne citoyenne, à tel point que, voilà, elle a été condamnée en justice par un tribunal de l'Union européenne. Tanguy-Marie Pouliquen, est-ce que, quelque part, les chrétiens sont condamnés à être inaudibles sur ce sujet, parce que, dans le fond, on nous renvoie toujours cette réponse que là nous a fait Angelo Parini, c'est une histoire de croyance et de foi, de savoir si ou pas ces cellules ont une âme.
Moi je voudrais... Non, je ne pense pas du tout, c'est pas une question de croyance, c'est une question de réel. Il faut revenir au réel. Le réel, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous permettre de revenir au réel, si on élargit un peu le débat, par exemple sur le plan de l'avortement, etc., ça va être l'imagerie médicale. Le jour où on arrivera à, et on y arrive de mieux en mieux, où on voit qu'avant les 14 semaines emblématiques qui permettent l'avortement en France, lorsqu'on voit ce développement cellulaire, en fin de compte, on voit que c'est une vie en croissance, c'est une personne en intégration, c'est une personne en devenir, mais qui est déjà une personne, il y a une vie qui est déjà là, et c'est pas un moment, un cadre législatif qui va dire personne par personne. Non, il y a déjà, on va pouvoir voir, et peut-être que les résultats, effectivement, des analyses, des recherches, etc., vont mettre en évidence que, mais c'est à chaque fois, c'est des processus uniques, c'est des processus qui renvoient à une unicité qui se développe, à un corps embryonnaire, comme l'utilise un terme utilisé par le magistère de l'Église dans Dignitas Personae, c'est qu'il y a un corps embryonnaire. Donc le réel...
Alors que répondre en raison, je pense aux auditeurs qui vont certainement avoir ces discussions en famille ou avec des amis, quand on leur répondra, comme Angelo Parini vous a répondu, c'est une question de foi, vous croyez qu'il y a une âme?
Non, je suis un embryon qu'on a laissé vivre. Je suis un embryon qu'on a laissé vivre.
Il n'y a pas de point de rupture entre un embryon et ce que nous sommes.
Voilà.
Il n'y a pas actuellement, scientifiquement, on n'a pas un point de rupture. On peut voir des étapes. On peut penser la nidation est une étape, la formation du cerveau en est une, mais il n'y a pas de point de rupture. À partir du moment où on a la fécondation, on n'observe pas, au stade scientifique dans lequel on est, je vous laisserai peut-être reconfirmer, mais de point de rupture entre la cellule qui ensuite se développe, qui ensuite se multiplie, puis se spécialise, donc justement ce dont on a parlé derrière, il n'y a pas de point de rupture. Et c'est ça qui fait que normalement il devrait y avoir un principe de précaution.
Angelo Parini, j'avais une dernière question, un peu vache. On peut lire parfois que si la France ou l'Europe on va rester sur la France, est aussi, quoi que vous en disiez, prompte à généraliser la recherche sur l'embryon, c'est qu'il y aurait derrière des enjeux financiers majeurs, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'instituts de recherche auraient investi dans ce type de recherche et pas dans les recherches sur les cellules iPS. Bref, qu'il y aurait aussi derrière une histoire de gros sous. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je crois que, sincèrement, je pense qu'en France, on peut exclure totalement cette possibilité. Je dirais que c'est tellement encadré. D'ailleurs, toute recherche sur l'embryon ne peut pas être brevetée. Il n'y a aucune possibilité de valorisation en termes de brevet sur la recherche en France, sur la recherche
au niveau européen. Cour de justice des comités européens interdit la brevetabilité des recherches.
Mais je soulignais en France, bien sûr, en Europe aussi, tout brevet est interdit. Donc, les questions de grands sous. Alors, ceci n'est pas vrai dans d'autres pays où, je dirais, cet
aspect... Et c'est pour ça qu'il faut des lois internationales, d'ailleurs.
Ouais. C'est pour ça que les aspects gros sous peuvent être très importants. Mais encore une fois...
Ma question, c'était pas sur la brevetabilité... je perds l'expression. Mais ma question, c'était qu'on a investi dans des structures de recherche qui ont comme finalité la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Et donc, une fois qu'on investit des millions pour créer des laboratoires de recherche, on ne va pas du jour au lendemain dire on ferme tout et puis on va transformer ça en recherche sur les cellules iPS.
Oui, non, mais les recherches sur l'embryon ont tout leur sens et marchent très bien. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a...
Donc, c'est une histoire de sens et pas de gros sous d'abord. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Absolument, absolument. Parce que, encore une fois, il y a cette idée que les cellules embryonnaires sont là pour faire des cellules qu'on peut implanter chez les personnes. Et ça... C'est, je dirais, la pointe de l'iceberg. La recherche sur l'embryon...
L'iceberg médiatique qui justifie aux yeux du grand public ce type de recherche. On voit qu'il y a quand même un plan médiatique pour faire accepter ces recherches sur l'embryon, parce qu'on imaginerait une hypothétique ça. Et donc c'est là où je pense qu'il y a quand même... On voit bien quand même qu'il y a une bascule là-dessus. Et médiatiquement, je pense qu'il y a une complicité assez forte.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche sur l'embryon, sur les cellules embryonnaires, est extrêmement, je vous répète, extrêmement importante. Après, on est dans la société d'aujourd'hui, dans une dérive de médiatisation sur des bases, certaines fois, qui ne sont pas les plus importantes et les plus concrètes. Chose qui génère, en même temps, de l'enthousiasme, mais beaucoup de déception après, quand on ouvre les yeux et on voit que ce qui avait été promis n'a pas été maintenu. Et ça, c'est vraiment dommage, je pense.
Blastocyste, vous dites, c'est ça. Hein, c'est
blastocyste.
Le terme que... Voilà, alors pardonnez-moi, je conclurai cette émission en citant Mère Teresa. Je pense que peut-être ça choquera certains auditeurs. Prix Nobel de la paix, qui à la tribune, lorsqu'on lui avait remis ce prix Nobel, avait parlé de la destruction des embryons. On pourrait dire donc embryon ou blastocyste. C'est selon donc peut-être les postures philosophiques des uns et des autres. T'éliminer est le plus grand destructeur de la paix. Voilà ce qu'elle avait dit lorsqu'on lui avait remis ce prix, et comment ne pas rejoindre, en tout cas c'est l'opinion des chrétiens et des évêques de France. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église pour cette dernière émission. Merci à Angelo Parini d'être venu, vraiment, d'avoir fait cet effort d'explication, de pédagogie et de dialogue. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.